Hashtag 2050 le podcast, c'est votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Montez à bord, installez-vous confortablement. Le futur commence ici et maintenant.
Dernier en bref de l'année 2019. Au menu, un rapport du GIEC, facile, une info encourageante, pas mal, une actu et la chronique de Stuart Calvo. Vous avez sans doute plus ou moins suivi le truc, j'étais à la COP25 début décembre. Bon, côté résultat, c'est pas réjouissant. Je vous renvoie aux épisodes de mon édition spéciale. Mais j'ai tout de même envie de m'arrêter sur un sujet en particulier, les terres. Ça a été un point de blocage important, notamment de la part du Brésil. Le GIEC a sorti à la fin de cet été un rapport spécial demandé par les États signataires de l'accord de Paris sur le thème, je cite, « le changement climatique, la désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des sols, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres ». Tout un programme. Avec quelques compères, Russie, Argentine notamment, le Brésil a bataillé ferme jusqu'au dernier instant pour qu'aucune mention à ce rapport n'apparaisse dans l'accord final de la conférence des parties.
Non, ça n'est pas possible. Non, ça n'est pas possible.
Et si, c'est possible. Bon, au final, de toute façon, il n'y a quasiment rien ou presque à retenir de cette COP en termes d'avancée. Mais voilà, que dit ce rapport pour qu'il ait pu à ce point crisper plusieurs États? Par exemple, que l'érosion des sols générée par l'agriculture est 20 à 100 fois plus importante que la capacité des sols à se former.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va.
Le désert avance. En 2015, entre 380 et 620 millions de personnes ont expérimenté dans leur vie, dans leur quotidien, chez eux, la violence de la désertification, soit une hausse de 200% entre 1961 et aujourd'hui. Lors de mes tout débuts en radio, alors chroniqueuse, je m'étais intéressée au lac Tchad. En 40 ans, il est passé de 26 000 km² à 1500. Que dit encore ce rapport ? Que 23% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à nos usages des sols. Pour noircir encore le tableau, ajoutez à cela le rythme effréné d'artificialisation des terres. Réjouissons-nous, l'Union européenne vise le zéro augmentation nette d'imperméabilisation. Bien, vu qu'en moins d'un siècle, c'est l'équivalent du territoire de la Hongrie qui a perdu sa forme originelle en Europe. Et qui dit sol, dit alimentation, dit textile, dit santé, dit terres rares, dit épuration de l'eau, dit bactéries, dit biodiversité, etc. Une liste exhaustive serait impossible à dresser. En bref, les sols sont vitaux. Rappelez-vous, c'est ce que disait Sophie Raoust à l'occasion de notre passionnante conversation. C'était en mars 2018. Vous voyez l'enjeu ? Reconnaître officiellement les liens entre usage humain des sols et crise climatique, c'est reconnaître une responsabilité du côté des politiques. Aménagement du territoire, subvention à telle ou telle activité qui abîme les terres. Et le Brésil de Bolsonaro est beaucoup plus intéressé par la compétitivité internationale de ses agricultures que par la préservation de la vie microbienne sous nos pieds. Alors vous me direz, mais oui Rebecca, tu oublies les dispositifs de compensation quand même. On détruit ici, on compense par là.
Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ?
Non.
Si, si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage. Hein ? Mm-hmm. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non.
Ouais, à quel prix ? Si vous avez entendu Robinson Lopez Descansa de l'organisation COICA que j'interrogeais pendant la COP, organisation qui fédère les peuples indigènes du bassin amazonien, vous avez retenu que ces dispositifs se mettent en place sans concertation réelle avec les communautés locales. Que de la compensation pensée sans s'interroger sur son impact sur les modes de vie sur place, je parle ici de spiritualité, d'alimentation, de médecine, d'habitat, c'est se laver les mains à bon compte. Mais quand on parle des sols, y a-t-il une info encourageante ? Parce que oui, je me suis promis solennellement de vous trouver une bonne nouvelle dans chaque « en bref ». Quelle idée encore ! Pour la bonne nouvelle, direction le continent africain. Sur le continent, l'agroécologie, qui intègre les savoirs et les savoir-faire traditionnels à la recherche scientifique comme l'agronomie, l'économie et la sociologie, aide à la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Il ressort de nombreuses études que les petits paysans qui observent les pratiques agroécologiques non seulement résistent mieux, mais encore se préparent mieux au changement climatique en réduisant au maximum les pertes de récoltes entraînées par les sécheresses. Ces propos, ce sont ceux de Kumba So, agroéconomiste et coordinatrice régionale de la FAO. D'ailleurs, selon le président de l'Association pour la vulgarisation et l'appui aux producteurs agroécologistes du Sahel, l'agriculteur conventionnel utilise les engrais et les produits chimiques, ils sont dépendants de l'extérieur, alors que l'agriculteur agroécologiste est lui autonome parce qu'il produit ses intrants lui-même. Il gère son foncier correctement et sur un hectare, il peut produire le revenu de 2 hectares.
Quand la nature elle m'emmerde, je me l'escarbouille, la nature. Moi, je ne suis pas un paysan, moi. Je suis un gestionnaire. Et pour te la gestionner, je te l'ai gestionné, la nature, par chez moi. Faut les voir, mes 400 hectares. Comme c'est propre. C'est nickel. Il n'y a plus rien.
Les résultats de l'étude Calao pour capitalisation d'expériences d'acteurs pour le développement de techniques agroécologiques résilientes en Afrique de l'Ouest semblent confirmer ces affirmations. Meilleur revenu, meilleur rendement, maintien de la fertilité organique et minérale des sols, stockage de carbone plus important. Une actu ? Le 18 décembre, c'était la journée internationale des migrants. Et vous le savez, le climat participe des causes de ces déplacements de population. Le mouvement Extinction Rébellion à Montpellier a participé à un cortège pour l'occasion et a partagé un texte dont je vous livre un extrait. Nous, Extinction Rébellion Montpellier, sommes solidaires de tous les exilés contraints et forcés à quitter leur famille et leur terre pour un avenir incertain, poussés par la misère et ou la tyrannie. Cette question est écologique. Le changement climatique, plus 3 degrés d'ici la fin du siècle si rien n'est fait, touche d'abord les populations du Sud, 1 milliard de déplacés d'ici à 2050. Celles-ci ont été sciemment appauvries, pillées, tuées par des siècles de colonisation. Et aujourd'hui, ce sont les descendants de ces mêmes colons qui produisent très majoritairement les émissions de gaz à effet de serre. Une fois de plus, les hommes, les femmes et les enfants seront, si rien n'est fait, jetés sur les routes de l'exil, fuyant les typhons, les feux, les submersions de terre, Bangladesh, île Kiribati ou la raréfaction des ressources. Nous refusons cette injustice, ce crime contre l'humanité. Sans transition ou presque, je vous propose de retrouver la chronique de Stuart Calvo. Oui, pour continuer à voyager dans le temps à travers les mots d'un auteur, Robin Cook, et d'un livre, Quelque chose de pourri au royaume d'Angleterre. Un livre au sous-titre qui forcément me parle, un avertissement pour ceux qui ne sont pas curieux. Stuart, c'est à toi.
Un livre de l'écrivain britannique Robin Cook, à ne pas confondre avec l'écrivain américain du même nom qui est spécialisé pour sa part dans l'écriture de polars médicaux. Donc Robin Cook, le Robin Cook dont il est question ici, est né en 1931 en Grande-Bretagne et décédé en 1994 en Grande-Bretagne, ce qui en fait un parfait citoyen britannique. Quelque chose de pourri au royaume d'Angleterre, ça nous raconte la montée du fascisme en Grande-Bretagne. C'est un roman qui est paru en 1970 en Grande-Bretagne, en 2003 en France. L'histoire nous est racontée sur le mode autobiographique par le narrateur Richard Watt, un journaliste politique limite anarchiste qui s'est exilé en Italie avec sa compagne Magda pour échapper aux représailles du pouvoir en place. C'est un livre qui se décompose en deux grandes parties. Une première partie qui va nous raconter l'exil italien du couple dans ce petit village du côté de Sienne, qui est un village qui est hanté par le spectre du fascisme et par ses règlements de compte. C'est une première partie qui raconte les rêves oppressants du narrateur relatifs à la montée de la dictature, qui raconte la visite aussi des amis du couple, des amis britanniques du couple qui sont complètement aveugles à ce qui est en train de se passer dans leur pays et qui racontent également l'étau qui se referme progressivement sur le jeune couple puisque Jobling, le premier ministre britannique qui a été ridiculisé par Richard Watt du temps où il était journaliste, compte bien régler ses comptes et faire extrader le journaliste et sa compagne en Grande-Bretagne. La seconde partie du livre est consacrée à la déportation de Richard Watt et de sa compagne et à la vie du journaliste dans les camps destinés aux prisonniers politiques. Donc ce n'est pas du tout un livre réjouissant, c'est même plutôt un livre déprimant qui est écrit dans une langue magistrale. C'est très profond, très fouillé. Il y a un véritable travail d'introspection qui a été mené par l'auteur. C'est un vrai bonheur de lecture. Mais c'est peut-être pas un livre à lire quand on n'a pas tellement de morale. Et en même temps, c'est un livre qui, je pense, est salutaire et nécessaire parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. À mon sens. Il y a ce premier niveau de lecture que j'ai pu décrire, avec cette critique du totalitarisme et cette lucidité, voire même cette extra-lucidité du narrateur quant à ce qui est en train de se passer dans son pays, quant à l'aveuglement, je dirais, de l'ensemble de son entourage, qui ne souhaite pas perdre ses prérogatives et ses privilèges. Mais il y a ce deuxième niveau de lecture qui touche aux privilèges du narrateur eux-mêmes. En fait, on a cette impression, cette désagréable impression, que même si le narrateur voit et sent ce qui est en train de se passer, il, à aucun moment, il ne conçoit que cela puisse lui arriver à lui. On a cette mise en balance, en fin de compte, de ce drame qui est en train de se jouer en Grande-Bretagne. Dès le début de l'histoire, on apprend, par exemple, que le gouvernement britannique a fait déporter les populations noires et pakistanaises d'Angleterre. Et ce leitmotiv du narrateur qui dit « il faut absolument que je demande la nationalité italienne pour moi et pour ma compagne, pour que nous soyons protégés », mais qui trouve jamais le temps de le faire, qui a toujours des choses à faire, qui a toujours du boulot à mener à la ferme. Bref, ce leitmotiv, cette mise en balance plutôt de ce drame d'un côté et de cette sous-estimation de ce qui risque de leur arriver à eux de la part du narrateur. Et en fait, on a vraiment l'impression d'entendre quelqu'un qui est assez imbu de ses privilèges et de son bon droit et qui n'arrive pas à se dire que ce qui est en train de se jouer peut le toucher incessamment bientôt. Également, ce qui est assez dérangeant dans le livre, c'est la manière dont les femmes sont traitées et la manière dont la condition féminine est représentée. On apprend que Magda, par exemple, a quitté sa carrière de journaliste pour le rejoindre et donc partir en Italie avec lui. Donc une femme qui est active, qui est brillante, et cependant, à chaque fois que le narrateur en parle, c'est toujours au travers de tâches et de travaux domestiques. Et je vais vous lire un passage, par exemple, qui illustre la manière dont le narrateur perçoit sa compagne. Et elle sourit, de ce grand sourire heureux et plein de chaleur du temps lointain avant le désastre, celui qu'elle m'adressait en étendant la lessive quand je venais la surprendre au sortir de mon bureau ou en revenant du travail, ou quand elle posait sur la table un repas particulièrement succulent. Donc voilà, un roman, à mon sens, à plusieurs lectures, critique du totalitarisme certes, mais critique aussi de cette position, de ce niveau de privilège que nous pouvons avoir tous autant que nous sommes et qui nous empêche de prendre la parfaite mesure de ce qui est en train de se passer autour de nous. Je pense que c'est un roman qui se veut à la fois une critique politique, mais également une critique sociale et petite bourgeoise, et certainement également une critique de cette position d'homme blanc, parfaitement, comme je le disais précédemment, sûr de son bon droit et de son statut. Ici, on insiste également beaucoup sur... le narrateur insiste beaucoup sur son état de citoyen britannique qui, selon lui, le met à l'abri de tout. Donc vraiment un livre qui fait réfléchir à plusieurs niveaux, de manière macro, mais aussi de manière plus personnelle, plus individuelle, sur ce que nous sommes, sur ce que nous représentons, sur ce que sont les autres autour de nous et sur la manière dont un pouvoir... totalitaire peut ou pourrait nous toucher et comment nous pouvons lui résister. Et notamment sur la manière dont nous réagirions face à l'arrivée d'un pouvoir totalitaire et la manière dont nous fonctionnons nous-mêmes dans nos propres systèmes de privilèges, parfois à notre insu.
Il faut que je lise ce livre. Et en bref, et pour finir, mon répondeur vous est toujours ouvert. Vous pouvez, et je vous en remercie, partager cet épisode largement autour de vous dans votre vie numérique, mais pas que. En descriptif de l'épisode, évidemment, quelques liens utiles. Notre prochain rendez-vous, vous demandez-vous déjà, gourmandes et gourmands que vous êtes, ce sera une conversation avec une jeune femme au nom imprononçable. Je pars m'entraîner à le dire pour vous donner une idée de la performance. Son nom comporte 10 lettres, dont 2 voyelles, 2 Y. Et nous parlerons énergie. Il me reste à vous glisser notre formule magique. Elle nous réussit si bien. Soyons toujours curieux.